Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Quels sont les secrets des couples qui durent? Une question cruciale quand on sait par exemple qu'en France, près d'un mariage sur deux ou un mariage sur trois, suivant les statistiques, se termine par un divorce. Le pic des séparations se situant autour de la cinquième année. L'argent, la sexualité, le travail deviennent souvent des sujets tabous, difficiles à aborder. Pourtant, le dialogue est un élément essentiel de la vie à deux. Le couple est une relation qui nécessite d'être entretenue et réussir à se poser les bonnes questions au bon moment, apprendre à communiquer avec son partenaire dans les bons et les mauvais moments pour renforcer la relation. Alors, comment faire durer un couple et traverser les épreuves de la vie à deux? Qui consulter lorsque tout va mal en duo? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le docteur Bernard Gébérovitch. Il est psychiatre spécialisé en thérapie de couple et de famille à Paris. Il vient de publier « Les 7 vertus du couple, une alchimie particulière » aux éditions Odile Jacob. Et si vous avez envie d'apporter un témoignage ou de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone Cérine Morbay, qui est psychologue à Dakar, au Sénégal. Et pour terminer, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon.
RFI.
Docteur Bernard Gébérovitch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet absolument crucial qui est le couple, qui intéresse tout le monde. Alors, une première question que vous posez d'ailleurs dès le début de votre ouvrage, c'est pourquoi les couples se séparent-ils de plus en plus ?
La réponse est plurifactorielle. Les couples se séparent de plus en plus, d'abord parce qu'ils ont en tête, pour beaucoup, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, que de toute façon, ils auront plusieurs couples dans leur vie. Et dès le début du couple, ou avant même de se mettre en couple, aujourd'hui, les jeunes ont en tête que ça durera ce que ça durera, mais peut-être qu'il ne faut pas nécessairement faire d'efforts pour que ça dure plus longtemps. Par ailleurs, chaque couple a ses propres raisons de se séparer, bien sûr, mais celle-là est une raison, moi, qui m'a beaucoup touchée, et je trouve que c'est dommage de partir dans la vie avec des idées toutes faites, avec des croyances pessimistes ou réalistes, peu importe, mais qui vont entretenir, c'est ce qu'on appelle chez nous des prédictions autoréalisatrices, c'est-à-dire que si on commence une histoire
en se disant ça va pas marcher, ça marchera pas.
De toute façon, à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Effectivement, ça favorise un peu les situations
c'est
de rupture.
Il y a un auditeur qui nous a laissé un message sur Facebook en disant les jeunes, à la moindre querelle, se séparent. C'est du coup un peu aussi le sentiment que vous avez, on se sépare un peu vite.
Un peu vite, sans doute, à la moindre querelle,
N'exagérons pas.
Quand même, parce que les querelles font partie de la vie de couple.
Ça, c'est une des premières raisons. Est-ce que l'autre raison, c'est pas aussi qu'on vit de plus en plus vieux et que donc finalement la vie de couple est de plus en plus longue?
Bien sûr, on vit de plus en plus vieux et la vie de couple est de plus en plus longue, même si la vie de famille commence un peu plus tard que il y a quelques années. C'est une des raisons, la lassitude, ce que beaucoup de gens me racontent sur la vie quotidienne, la routine, etc., etc. C'est une des raisons. Et je crois qu'il peut se faire que les couples se séparent. Ceci étant, il faut aussi voir les statistiques dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un couple sur deux ou deux sur trois reste ensemble.
C'est ça. Donc, et alors justement, pourquoi ne se séparent-ils pas ceux-là? Pourquoi restent-ils ensemble? Alors j'imagine aussi que vous allez me dire les raisons sont variées, mais c'est aussi une question qu'on se pose.
Les raisons sont variées. On se pose cette question et je crois parce que pour la plupart, ils ont décidé d'abord de ne pas remettre en cause la pérennité de la relation très régulièrement. Et ils ont décidé souvent de faire en sorte de pouvoir poursuivre leur histoire à deux, d'entretenir le couple. Même souvent d'entretenir les sentiments, l'amour et la sexualité.
Parce que eux aussi, bien sûr, traversent des crises. Tout le monde traverse des crises.
Bien sûr, tout le monde traverse des crises. Et les crises, c'est simplement un état de turbulence entre deux états d'équilibre. C'est-à-dire, on sait bien que la vie personnelle, le cycle de vie, comme on dit, est fait de crises régulières. Et la vie d'un couple qui dure est fait de situations de crise, bien sûr.
Alors, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Jacques, qui a 50 ans. Il vit en couple depuis 6 mois, une histoire assez classique. Il a deux enfants issus de deux précédentes unions, un garçon d'une vingtaine d'années, une fille de 13 ans. Il a eu 4 histoires d'amour importantes dans sa vie. Et sa compagne actuelle a, elle aussi, deux enfants, aussi de deux unions différentes. Je pense que c'est des histoires très classiques que vous devez rencontrer. Des propos recueillis par Pauline Mocor.
Contrairement aux autres fois, ça ne commence pas dans l'euphorie.
Donc c'est plutôt bien, je ne suis pas stressé, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi dû à toutes ces expériences que j'ai eues. Je sais que toute histoire peut avoir une fin. J'essaie d'être moi-même, de ne pas faire les choses qu'en fonction de l'autre. Et donc d'accepter que nous sommes différents et que c'est un plus.
Est-ce que vous pourriez me parler de votre première relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes séparés?
Oh, je pense que c'était tout simplement l'usure.
Ça faisait combien de temps?
7-8 ans, quoi.
Et vous avez compris à quoi c'était dû, cette usure?
Aujourd'hui, oui. En fait, je pense que c'était juste un moment moins intense, quoi, voilà.
Vous aviez l'impression de ne plus rien ressentir pour elle?
Disons, de ne plus avoir les mêmes sentiments, d'être plus des amis. La fameuse passion physique, elle était un peu en berne. Je pense que si ça m'était arrivé aujourd'hui, j'aurais vite trouvé des solutions en disant « ça va revenir, ne paniquons pas, voilà, les choses vont se remettre en place ». Parce que, en fait, vivre avec quelqu'un, il n'y a pas que le sexe.
Mais vous, sur le moment, le fait d'avoir moins de désir pour elle, ça vous a inquiété sur votre propre sexualité?
Disons que ça m'a fait paniquer. Parce que c'était la première fois que je vivais si longtemps avec une femme. J'ai eu peur de tourner en rond, voilà. En fait, il aurait fallu que j'accepte tout simplement que la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas.
Et comment vous faites pour accepter?
Mais je vais me focaliser sur tout ce qui est bien.
Est-ce que vous faites attention aussi à dire des paroles positives?
Maintenant, oui, je fais des compliments. Par exemple, quand elle porte une belle robe, je lui dis que je trouve sa robe très très belle. Et je vois dans son regard que ce sera une belle journée. Donc ça, c'est ce que j'ai appris avec le temps.
Avec votre compagne d'aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive de parler de vos histoires d'amour d'avant?
Ah oui, heureusement. Parce que moi, j'aime en parler et justement, il se trouve qu'elle m'en parle tout le temps. Donc j'ai l'impression vraiment qu'on partage quoi, des choses très intimes.
Vous êtes très proche de vos anciennes compagnes?
Très, oui. Mais chacun vraiment à sa place, donc ça s'est transformé en amitié.
Et votre compagne actuelle, est-ce que ça la dérange que vous ayez ces liens d'amitié avec vos ex-compagnes?
Ça ne la dérange pas du tout, parce qu'elle ne manifeste pas de jalousie.
Votre histoire actuelle, vous pensez qu'elle va durer?
J'espère qu'elle va durer. Donc je vais faire tout pour. Mais ça ne dépend pas que de moi. Hein. Je suis confiant parce qu'on partage pas mal de choses. Et puis, on s'écoute, on se parle. Tant qu'il y a le dialogue, moi j'ai peur de rien.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des couples avec le docteur Bernard Gébérovitch, qui est psychiatre et qui vient de publier Les 7 vertus du couple, une alchimie particulière. C'est aux éditions Odile Jacob. J'aimerais bien votre réaction à ce témoignage de Jacques, qui dit beaucoup de choses. D'abord, qui parle de la question de l'usure. C'est la grande crainte de tous les couples.
C'est la grande crainte de tous les couples. Et l'usure, c'est vraiment une représentation. C'est-à-dire que Jacques a dit, voilà, on est tombé dans l'usure. Et il a ajouté tout de suite après, il y avait moins d'intensité, il y avait des moments sans sexualité, et j'ai paniqué. C'est-à-dire que c'est vraiment une représentation, l'usure. Alors qu'il s'agissait sans doute d'un moment de creux, d'un moment de moins, je sais pas comment on peut le dire. Et d'ailleurs, il dit lui-même... Si je vivais ça aujourd'hui, on pourrait sans doute le travailler avec cette personne et peut-être dépasser ça. Bon, heureusement, Jacques a l'air de pas du tout avoir de regrets, et tant mieux, c'est une bonne chose pour lui. Et d'ailleurs, il explique bien qu'il a compris et qu'il a utilisé cette déception ou cette fin de relation pour en tirer un certain nombre de conséquences dans sa vie actuelle, et c'est aussi ce qui est important.
Et donc, ce que vous dites, c'est que l'usure, c'est pas une fatalité. Et surtout, ça devrait nous faire moins peur. On est un peu dans les peurs collectives là-dessus.
On est vraiment dans les peurs collectives, dans les croyances qui sont très véhiculées. Moi, Je l'entends beaucoup, et encore tout à l'heure avec vos collaboratrices, cette histoire de l'amour dure 3 ans qui se balade comme ça un peu partout, qui est dans les légendes urbaines. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'amour, celle du début, de l'intensité, de ce qu'on appelle la passion, qui est on est tous les deux tout seuls au monde, qui dure quelques temps, qui ensuite se confronte à la vie en couple, à la vie quotidienne, éventuellement à l'arrivée des enfants, au travail, aux familles. Donc l'amour évolue, ça n'est plus la même forme, il évolue, et c'est d'ailleurs, on peut retrouver des moments d'une telle intensité par la suite. Je crois que l'amour est protéiforme, il a plusieurs périodes et plusieurs moments d'intensité différents.
Avant de prendre des questions d'auditeurs et des témoignages, j'avais une autre question que je voulais vous proposer à propos de ce que dit Jacques. Il dit beaucoup qu'il parle de ses histoires d'amour précédentes. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou pas?
Pour lui, ça a l'air d'être une bonne idée, d'abord parce qu'il y tient et qu'il a réussi, d'après ce qu'il dit, à bien faire la part des choses. C'est-à-dire, il en parle comme de ce qu'il a constitué, et il semble ne plus avoir du tout de sentiments ambigus vis-à-vis de ses partenaires. Par ailleurs, il est dans une relation symétrique, puisque sa compagne lui parle aussi de ses relations antérieures, donc pour eux, ça pose pas de problème. Effectivement, pour d'autres, c'est plus compliqué. Pas mal de personnes sont jalouses du passé de leur conjoint. Je voulais juste préciser une petite chose. Il dit une chose très, très, très importante, Jacques. Il dit en dialogue, c'est-à-dire on se parle, virgule, et on s'écoute. C'est pas seulement on se parle.
Oui. Et c'est important. On a d'ailleurs dans la langue française, et vous le dites, des mots différents pour entendre et écouter. Et c'est donc bien important de réellement écouter.
Oui, d'écouter et d'aller se rapprocher de l'autre, justement, en partageant quelque chose de ce qui est dit à ce moment-là.
On a Christian qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Christian, bonjour.
Bonjour, comment vous allez, madame?
Très bien, on vous écoute. Alors, Christian, la ligne téléphonique n'a pas l'air très très bonne, donc il faut que vous parliez bien près du téléphone et le plus fort possible.
Ok.
Allez-y, Christian. Bon, on va vous rappeler parce qu'il y a l'air d'avoir un problème de communication téléphonique. La ligne ne paraît pas suffisamment bonne. Donc on va vous rappeler. On a Rogatien qui nous appelle de Cotonou, au Bénin. Rogatien, bonjour.
Bonjour, Claire.
On vous écoute.
Ok, je voudrais simplement préciser que la vie à deux, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais lorsque, comme l'a dit tout à l'heure le thérapeute, on est déjà engagé dans le temps que ça doit durer. Je crois qu'on y parvient. Moi, je suis marié depuis plus de 15 ans maintenant avec mon épouse. Nous vivons ensemble et très heureux d'ailleurs.
Et alors, comment vous faites? Donnez-nous vos secrets. Qu'est-ce que vous faites?
Oui, ce que nous faisons, il faut avouer que je suis chrétien. Et nous fondons toute notre relation sur notre foi. Et au-delà de cela, nous faisons en sorte qu'il y ait un dialogue permanent. Nous mangeons ensemble, nous faisons tout ensemble, au point où dès qu'il y a un événement malheureux ou bien quand quelqu'un fait du mal à l'autre, on peut toujours en parler et dépasser cela. Je fais l'effort de ne pas limiter mon épouse à ses petits défauts. Je crois toujours qu'elle peut changer. Et dans ce sens, je me dis... Elle est la femme la plus parfaite que je peux avoir.
Et la question de l'argent?
Nous essayons de façon qu'il y ait une certaine transparence. Parce que ma femme connaît mon salaire, elle connaît tout ce que je gagne. Et dans ce sens, je connais aussi ce qu'elle appelle, elle est styliste. Et elle me fait souvent le compte de ce qu'elle a. Et en mettant ensemble, nous faisons en sorte que cela nous suffise, que cela soit conforme à nos besoins. Et il faut avouer aussi qu'il y arrive des fois où nous n'arrivons pas à nous entendre sur les priorités pour lesquelles il faut faire les dépenses. Mais avec un peu de dialogue, on arrive à s'entendre quand même pour dépasser cela.
ça marche quand même. Un beau témoignage, docteur Bernard Gébérovitch. Je voudrais juste faire agir sur une chose par rapport à ce que vient de dire Rogatien, sur la question de la place de la religion. Est-ce que justement ça peut aider ?
D'avoir des valeurs communes fortes, des croyances, des convictions, bien sûr, ça peut aider. Et dans une des choses importantes dans le couple, c'est la confiance qu'on a en l'autre et la confiance qu'on a dans la relation. Foi et confiance, il y a des racines communes dans ce terme-là. Donc, de partager une foi, bien sûr, ça peut aider.
Sur la question de se pardonner, c'est aussi quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Oui, on peut heurter l'autre. C'est important, cette question-là.
Elle est importante et elle est subtile. C'est-à-dire que, effectivement, on peut blesser, on peut agresser, on peut toucher l'autre. Ce qui est important, ce qui a à se faire pardonner, c'est l'intention. C'est-à-dire de bien expliquer que, voilà, si je t'ai blessé, c'était pas mon intention. Ceci étant, je comprends que t'aies eu mal. C'est-à-dire que le pardon n'efface pas la douleur ou ce qui a été affecté, mais au moins précise que l'intention n'était pas de faire mal à l'autre.
Merci beaucoup, Rogatien, pour ce témoignage. On a retrouvé Christian, qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Christian, bonjour.
Bonjour, Claire.
On vous écoute.
Oui, je suis un ingénieur en génie mécanique, un ingénieur de conception. Donc, je travaille avec la compagnie Schlumberger.
Alors, j'ai l'impression que la ligne téléphonique est trop mauvaise. Je suis absolument désolée, Christian. Je vais me permettre, parce qu'en fait, vous aviez laissé un message à Jeanne. Donc, je vais me permettre de lire le message, mais vraiment, la ligne téléphonique est trop mauvaise. Vous êtes marié depuis 5 ans. Vous travaillez comme ingénieur sur des chantiers pétroliers, ce qui fait que vous restez parfois un mois en brousse sans voir votre femme. Et elle vous manque beaucoup dans ces moments-là. Et dans cette période, vous travaillez beaucoup, parfois 24 heures d'affilée, peu de repos. Et quand vous revenez chez vous, ben, on le comprend bien, vous êtes assez épuisé, stressé. Vous passez votre temps à dormir, n'ayant plus envie même de faire l'amour. Et votre épouse ne comprend pas, elle croit que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Votre enfant, vous avez un petit garçon aussi de 4 ans qui s'éloigne de vous, ne veut plus vous embrasser quand vous le déposez à l'école, pardon, ça vous fait de la peine. Comment faire pour qu'elle comprenne et qu'elle me croie? Je trouve que le témoignage de Christian est intéressant sur voilà, la vie professionnelle très intense, compliquée, loin, et c'est difficile de s'accorder quand on revient.
C'est difficile de s'accorder, et cette question des retrouvailles, bon là, elle est extrême puisque Christian est absent longtemps et quand il revient il est épuisé, mais elle se pose même dans tous les couples quand on travaille, on fait une heure de transport, on arrive à 8h30 du soir ou à 7h, enfin peu importe, et on est fatigué. Ce moment des retrouvailles est important parce que c'est un moment où il faut se coordonner et que chacun comprenne l'état de l'autre, c'est-à-dire que...
Et ça va donner le ton de la soirée, en gros.
Et ça va donner le ton de la soirée. Alors, je sais pas, Christian dit que sa femme ne comprend pas dans quel état il est. J'imagine qu'elle doit le comprendre, mais qu'en même temps, elle le subit. Je crois que c'est aussi à Christian de comprendre l'état de désarroi de sa femme, qui doit être très en attente de ces moments de retrouvailles et qui doit être déçu qu'il soit un peu distant pas disponible à ce moment-là. Donc chacun doit essayer de comprendre le désarroi de l'autre et d'essayer de se donner des petits moments à deux.
Et on fait comment, justement, puisque vous dites que ce moment de retrouvailles, que ce soit un mois après ou tous les soirs quand on rentre du boulot, est important. Du coup on fait comment, parce qu'effectivement on rentre tous fatigués du travail.
On rentre tous fatigués et je crois que c'est important d'essayer de comprendre ce que l'autre attend et de se coordonner. Moi, je trouve que c'est important de pouvoir dire à quelqu'un, par exemple, attends, donne-moi encore 10 minutes et je vais prendre une douche et je me mets en forme et je pourrai revenir. Parce que chacun attend quelque chose de l'autre. Et si on peut formuler ses attentes et essayer de se synchroniser, de se coordonner, c'est vrai que c'est et non pas imposer ce qu'on attend de l'autre. Plus on attend, plus on est déçu. Et les situations peuvent vite se dégrader. Et on passe une mauvaise soirée, comme
vous
le dites.
Et donc, dans ces cas-là, c'est important de parler. On y reviendra sur l'importance de la communication dans le couple. Merci beaucoup, Christian, pour ce témoignage. Docteur Bernard Gébérovitch, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler du couple. Un téléphone, si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité. Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du couple avec le docteur Bernard Gébérovitch, qui est psychiatre spécialisé en thérapie de couple et de famille à Paris. Il vient de publier Les 7 vertus du couple, une alchimie particulière aux éditions Odile Jacob. Et si vous avez envie de participer, d'apporter un témoignage ou de lui poser des questions, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Nous avons au téléphone Cérine Morbaye, qui est psychologue et directeur du centre de guidance infantile et familiale à Dakar au Sénégal. Cérine Morbaye, bonjour.
Bonjour Claire.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour parler du couple. Quels sont les motifs de consultation au Sénégal justement sur ces questions de couple? Les gens viennent vous voir pourquoi?
Les gens viennent me voir parce que ils ont un mal-être et ce mal-être se rapporte à la relation qu'ils ont au sein du couple et à l'inévitable pollution relationnelle qu'ils ne savent pas gérer et qu'ils sont seuls à gérer parce que le couple est une entité toute nouvelle dans des cultures communautaires. Donc il y a un isolement au sein du couple où la pression communautaire au sein du couple ne permet pas aux uns et aux autres de devoir s'éprouver pour avancer, pour s'expérimenter.
Et quand vous parlez de pression communautaire, vous parlez entre autres de pression de la famille et de la belle-famille?
Pression de la famille et de la belle-famille. Je pense que les couples souffrent énormément de cela et ils cherchent à s'en affranchir, mais c'est tout à fait très 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 difficile de part et d'autre, de la part de l'époux ou de l'épouse. Et dès cet instant, je pense qu'ils n'ont pas de répit. Et je pense que le couple a besoin d'un temps, d'une économie particulière pour pouvoir dépasser les...
Et quels sont les conseils que vous êtes amené à donner dans ce cadre-là? Qu'est-ce que vous leur dites du coup à ces couples?
Travailler à s'affranchir, travailler à trouver ses propres ressources, travailler à pouvoir communiquer et prendre le temps de communiquer. Parfois, les couples sont tellement saturés par l'obésité de la demande sociale qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir s'écouter, de pouvoir parler et de s'entendre. C'est ça la problématique. Le temps et l'espace du couple est tout à fait saturé par cette pression communautaire, cette demande continuelle.
Et quelles sont les autres causes justement de complications dans le couple? Vous le dites bien, la pression communautaire, la famille, la belle-famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme difficulté récurrente?
L'argent est devenu une valeur dans l'économie du couple et la plupart du temps, je pense que c'est source de conflits. Qu'est-ce qu'il faut donner? Comment l'homme ou la femme doit participer à cette économie du couple? Parce que les représentations traditionnelles fondent qu'il n'y a que l'homme qui donne. L'argent, c'est l'homme qui assure la dépense, l'entretien de la famille. Et avec le contexte de la crise économique, ce n'est plus possible. Les hommes, de plus en plus, rechignent à devoir tout seul dépenser. C'est ça un autre conflit aussi, le rapport à l'argent.
Une réaction par rapport à ça, docteur Bernard Gébérovitch, est-ce que la question de l'argent est aussi présente, fortement présente dans les couples?
La question de l'argent est souvent aussi présente, mais là il n'y a pas vraiment de modèle aujourd'hui. On se rend compte que l'évolution individuelle est beaucoup plus lente que l'évolution collective. On pense comme ça en Europe de l'Ouest maintenant que tout est que l'égalité homme-femme est tout à fait acquise, et dans les mentalités individuelles, à certains moments, c'est pas aussi simple.
Donc, et ça se manifeste comment? Par exemple, vous avez un exemple à nous donner?
Oui, ça peut tout à fait se manifester par certaines femmes qui tiennent tout à fait à continuer de travailler alors qu'il y a un ou deux enfants, et que pour les hommes, il est évident que c'est leur carrière à eux qui passe en premier, et que donc elles doivent s'adapter en trouvant un travail.
Ouais, on n'est pas encore dans une égalité parfaite, c'est ça?
Individuellement, dans la tête, pas tout à fait. Et donc, il y a vraiment un travail d'équipe à faire, qui n'est pas un travail l'un contre l'autre et dans les bras de fer, mais d'essayer, comme comme disait Cyril, de faire au mieux pour trouver les ressources que le couple va pouvoir mettre en place.
Cyril Morbaille, les couples qui viennent vous voir, je veux dire, c'est rentrer dans les mœurs d'aller voir un thérapeute de couple comme vous, ou ça reste encore quelque chose d'un peu bizarre, si je puis m'exprimer ainsi?
Non, je pense que c'est bizarre et c'est bien dommage, parce que le couple ne trouve pas dans son environnement familial, au sein de la parentèle, des gens souvent disponibles pour faire une médiation correcte. Donc le couple a une tendance à l'enfermement, et le recours au psychologue ne vient que lorsque il y a une situation de mal-être, et c'est au décours de l'écoute d'une patiente qu'on se rend compte qu'en fait il y a problème au sein du couple, et ce problème-là s'étend jusqu'aux relations avec la famille et la belle-famille. Les belles-familles, je pense, posent énormément de problèmes au couple, parce que les belles familles se sentent des prérogatives par rapport à l'époux ou à l'épouse, et des prérogatives de type économique, des prérogatives de type d'une grande demande, et surtout économique. Et à partir de ce moment-là, les couples s'enferment, la femme est tout à fait isolée, et bien entendu, on les entend même pas sur tout ce qui est affectivité. Tout est devenu tout à fait matériel, je trouve que est tout à fait mercantile. On ne prend pas en compte cette dimension affective, cette dimension de l'érosion de la tendresse qui a circulé à un moment donné et qui est largement supplantée par les questions économiques.
Cyril, j'entends bien ce que vous dites, hein, c'est finalement pas très simple que les couples viennent, souvent c'est l'un des deux. Est-ce que justement Bernard Gébrovitch, c'est pas un peu la même chose en France? On dit beaucoup que c'est les femmes qui vont plus facilement consulter et qui ont un peu de mal à amener leur mari par la peau du cou, dans cette expression. Non, c'est encore ça ou pas?
Ça reste un peu encore comme ça. Ouais. C'est-à-dire que l'univers de la psychologie, c'est celui de la parole, et la parole, c'est plus féminin que masculin traditionnellement. Ça évolue un petit peu. Dans ma patientèle, il y a deux tiers de couples qui viennent sur la demande
de la femme,
l'initiative de la femme, mais les hommes finissent par venir.
Quand même. Cyril Morbaille, vous êtes dans un pays où la polygamie existe. Dans vos patients, justement, qui viennent vous voir, est-ce que c'est essentiellement des couples monogames, ou cette question de la polygamie rentre aussi dans la thérapie?
Mais la plupart du temps, Claire, c'est parce qu'il y a menace. Parce que lorsqu'il y a problème dans le couple, puisque du point de vue culturel, il y a cette possibilité de la polygamie, l'homme a tout de suite une menace de recourir à cette forme d'échappatoire, par rapport à cet échappatoire. Donc les femmes vivent la plupart du temps une situation de menace permanente, et ça aussi, ça érode complètement le climat de confiance, la relation, parce que l'homme peut recourir à tout moment à cet échappatoire-là. Bien évidemment, c'est dès l'instant qu'il y a plus de climat de confiance au sein du couple, parce que la femme a peur que l'homme recourt à une deuxième femme ou à...
Ça empêche le dialogue. En fait, la menace du mari, c'est: tu deviens casse-pied, je vais prendre une deuxième épouse.
Oui, mais c'est tout à fait ça, et ça fait des sentiments de peur, où les femmes passent leur temps à recourir à des pratiques magico-fétichistes pour essayer d'endiguer le phénomène, le recours à la polygamie. Donc les femmes perdent énormément d'énergie dans cette relation-là, au mari, en termes de menaces qui pèsent sur elles quotidiennement. Quand je parle de pratiques magico-fétichistes, c'est les femmes qui sont à 80% des clientes des marabouts et de tous les charlatans pour essayer d'avoir des antimissiles, je dirais, magico-fétichistes qui empêchent le mari d'aller recourir à une autre...
Et on sait que ça ne marche pas vraiment. Mais vous, qu'est-ce que vous arrivez à faire, vous qui n'êtes pas un marabout?
Mais moi, quand je vois un marabout, comme je ne suis pas un marabout et que je ne voudrais jamais l'être, bon, j'essaie de faire comprendre à l'autre, qu'est-ce qui se joue, l'amener à voir qu'est-ce qui se joue dans la relation et quelles sont les ressources de résilience dont elle peut disposer pour pouvoir commercer à l'intérieur de ce couple et trouver en elle-même les ressources, parce que les ressources, on ne peut pas les trouver à l'extérieur. C'est très difficile dans une société en crise. Dès cet instant, j'essaie de faire prendre conscience à l'autre, de recourir au dialogue, à la tendresse, à l'écoute, parce que comme je vous dis, ce qui manque le plus, c'est le dialogue et la communication, parce que les hommes ne sont pas entraînés au dialogue avec leurs femmes, à la communication avec leurs femmes. L'idéologie en cours leur confère un sentiment de toute puissance qui fonde qu'ils se refusent à la communication. Donc comment les entraîner à parler, comment communiquer avec eux? Souvent, je conseille aux femmes d'aller à la recherche du dialogue et de la communication, en dehors de l'espace familial, parce que l'espace familial, en fait, l'environnement familial a tendance plutôt à polluer la relation que d'apporter autre chose.
C'est quelque chose en termes de communication. Merci beaucoup, hein, Cérine Morbaille. Je rappelle que vous êtes psychologue et directeur du centre de guidance infantile familiale à Dakar, au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du couple avec le docteur Bernard Gébérovitch, qui vient de publier Les 7 vertus du couple, une alchimie particulière aux éditions Odile Jacob. Et on a Célestin qui nous appelle de Libreville au Gabon. Célestin, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voulais seulement faire part de mon expérience. Je suis marié depuis 38 ans. Et avec mon épouse, elle est mariée très jeune, je crois que j'avais 24 ans. Et ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, les couples se séparent, se cassent les premières années. Nous avons surmonté ça. Et en général, je ne peux pas raconter au détail de notre vie, je peux dire que le couple survit à plusieurs choses. La première, c'est vraiment l'entente, la confiance. La deuxième chose, c'est effectivement ne pas faire intervenir trop de gens extérieurs dans votre vie. Nous avons pris cette résolution. Même les beaux-parents, même mes parents, je leur fais comprendre que c'est ma vie. Quand il s'agit de certains avis, on a vu votre femme, fais attention. Des fois, je les chasse. Et la troisième chose, c'est, je crois que comme toute association, faire des sacrifices. Des sacrifices, c'est-à-dire quand il y a des problèmes, savoir se demander pardon quand on se reconnaît en tort. Ne pas dire c'est moi l'homme, je ne peux pas me rabaisser à demander pardon. Donc dire à sa compagne, chérie, je reconnais mes torts. Et ça, j'en ai causé les torts dans notre ménage en tant qu'homme africain. Vous devinez ce que je veux dire.
Je crois comprendre.
Donc il y a des fois, on a dit on va divorcer demain ou après-demain, puis... on a eu l'étape, je me suis mis presque à genoux et puis on a rigolé.
Et vous avez réussi à vous rabibocher. Et sur la question de l'argent, oui, parce qu'on dit que c'est crucial dans le couple.
Sur le plan de l'argent, j'ai la chance, mon épouse travaille, moi aussi je travaille. Et je crois que c'est très important. Très important de quand la femme comprend, on a réussi à faire un plan de s'entendre sur... la répartition des charges du budget du ménage. Donc, par exemple, en ce qui concerne certaines petites charges, elle a dit, chérie, moi, je prends ça en charge, et moi, je prends d'autres en charge. Je crois que c'est très important quand la femme apporte quelque chose.
C'est ça, et c'est bien réparti entre vous. Célestin, merci pour ce témoignage, pour ce beau témoignage. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Libreville au Gabon. Et on a Céline qui nous appelle de Lomé au Togo. Céline, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Céline.
Voilà, en fait, moi, je suis en couple depuis 10 ans. Voilà, et on a une fille de 8 ans et une fille de 2 ans. Mais depuis, on a un problème avec mon mari qui est trop infidèle.
Qui est infidèle, c'est ça.
Voilà, et il a même vu un enfant Théo même. Bon, que j'ai pardonné quoi. On a finalement repris l'enfant qui vit avec nous. Mais récemment encore, les choses se sont dégradées. Parce que moi, je suis burkinabé et lui, il est togolais. Voilà, moi, j'ai quitté mon pays pour venir vivre ici. J'ai laissé mon travail, tout. Mais lui, il a eu le courage de se déplacer, aller jusqu'au Burkina, aller chez sa copine. Donc, j'ai... Parce qu'on a des enfants.
Oui, comment faire dans ces situations? C'est compliqué, ça, docteur Bernard Gébérovitch. La question de la fidélité et de l'infidélité.
Oui, bien sûr, c'est une question compliquée. Là aussi, c'est une question très intime. Hein. Certains couples surmontent l'infidélité de l'un ou l'infidélité de l'autre. Quand chacun peut comprendre que la relation que quelqu'un a mis en place avec quelqu'un d'autre, c'était pour soi et non pas pour faire mal à l'autre. Mais quand il y a un vrai engagement dans une autre relation parallèle, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Là, ce que décrit Céline est une relation très asymétrique où elle souffre beaucoup et puis elle est en charge. Elle tient le couple, la famille, et on a l'impression que son conjoint tient surtout à lui. Et là, ça crée une grande asymétrie.
Et quels sont les conseils que vous êtes amené à donner dans ces cas-là? Compliqué, il faudrait parler avec les deux, c'est ça?
Oui, là, il faudrait parler avec les deux et voir ce qui a permis à Céline de tenir jusque-là, et lui aussi, mais... Là, je peux pas donner de conseils.
Mais par contre, ça vaut peut-être le coup d'aller consulter.
Sans doute. Il n'est pas certain que monsieur accepte d'aller livrer ses infidélités à quelqu'un. Mais c'est vrai que ça vaut le coup d'aller consulter s'ils décident tous les deux que leur histoire vaut le coup de continuer.
Merci beaucoup, Céline. En tout cas, bon courage à vous. Je voudrais, docteur Bernard Gébérovitch, qu'on revienne à votre ouvrage. Vous parlez des 7 vertus du couple. J'aimerais bien qu'on les énumère les unes après les autres. Il y en a plusieurs qu'on a déjà évoquées, mais quand même qu'on y revienne. La première vertu, vous dites, c'est construire un socle commun, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que je crois que le couple, c'est deux personnes qui, à un moment, vont s'engager dans une aventure, et cette aventure va faire que, lorsqu'ils sont ensemble, ils sont un peu plus qu'eux-mêmes. On a l'habitude de parler en termes d'arithmétique, hein, c'est-à-dire qu'au début, la relation de couple, c'est 1 plus 1 égale 1, parce qu'on est dans une relation fusionnelle et on crée, chacun trouve sa moitié, et puis, petit à petit, la vie de couple va faire que on va créer ensemble une relation, on va créer ensemble une histoire. Les témoignages que vous avez eus, mon confrère de Dakar disait que ce qui est important, c'est de créer vraiment une histoire à deux qui soit indépendante ou en tout cas peu dépendante des histoires familiales de chacun. Donc petit à petit, on crée un socle et c'est à ce socle-là qui fait qu'on
qui va servir
pourra,
de base.
Voilà, on pourra y faire référence pour dire pourquoi ça vaut le coup de continuer.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est accepter l'autre. On en a déjà peut-être longuement parlé. C'est toute la question de la communication dans le couple. On va peut-être pas y revenir, mais vous l'avez largement développé en répondant aux auditeurs. Troisième vertu, faire de la sexualité un jeu et non pas un enjeu.
Ça, c'est complexe, effectivement. Parce que beaucoup, là, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais nombre de consultations sont liées à la baisse de désir, ou à l'infidélité, en tout cas à des difficultés dans la sexualité, et plus la sexualité est désignée comme étant le problème, plus ça alourdit le problème et plus les solutions sont difficiles à trouver. Donc quand on continue de pouvoir faire de la sexualité un élément ludique et quelque chose qui nous appartient tous les deux, un moment d'intimité à deux, et effectivement dans lequel plus peu d'autres personnes ont à voir, et surtout pas les belles familles, la sexualité reste un terrain à développer, à découvrir, et permet évidemment de participer à ce socle.
Quatrième vertu, savoir cultiver l'intimité, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà pas mal développé dans l'émission, mais il y a une chose très intéressante que vous dites là-dedans, entre autres, se déconnecter des écrans de temps en temps. Non mais le téléphone portable, l'ordinateur, c'est redoutable.
Assez redoutable. On parlait des retrouvailles du soir, oui, c'est redoutable. Moi, je vois beaucoup de couples qui ont l'impression comment dire ça, l'un a l'impression que l'autre ne s'intéresse plus au couple et l'autre a l'impression que l'un ne s'intéresse plus au couple. Donc on commence petit à petit à regarder une série, les tablettes, les mails, les jeux.
On se parle plus,
on se couche plus à la même heure et donc et ça ne fait que s'amplifier.
Cinquième vertu, négocier avec les alliés et les ennemis.
Ça, c'est donc la place de l'entourage, effectivement la place des belles familles, la place des amis, la place de tout ce qui est fort chez l'autre. Je pense que c'est très important d'arriver à comprendre que les attaches que l'autre peut avoir à l'extérieur du couple peuvent apporter quelque chose de positif au couple. Si après c'est une histoire de temps, hein, que ça prenne pas non plus trop de temps, mais je crois qu'il y a pas de jalousie à avoir par rapport aux passions, aux intérêts de l'autre, même si on les partage pas tout à fait.
Sixième vertu, faire durer le couple. C'est-à-dire, c'est bien le challenge.
C'est bien de le dire.
c'est bien de le dire, mais en fait, comment?
C'est-à-dire déjà d'y croire et de faire confiance dans la relation, de comprendre encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure que. À certains moments, le couple n'est pas la priorité. Par exemple, au moment de l'arrivée du premier enfant, le couple n'est pas la priorité. Il y a des réaménagements très importants à faire. Au moment de la maladie des parents, par exemple, le couple aussi est en difficulté. Au moment du chômage de l'un ou de l'autre, le couple est aussi en difficulté. Donc, si on arrive à faire en sorte que on est ensemble pour affronter ces difficultés, ces mauvais passages, et on s'entraide et on se soutient, le couple va surmonter ces moments de vie, du cycle de vie de chacun.
Et septième vertu, entretenir le couple.
Voilà, c'est une vertu presque quotidienne. Tout au début de l'émission, monsieur disait, voilà, moi je dis à ma femme qu'elle est jolie dans sa robe. Ces attentions-là, c'est ces moments où on trouve les mots, où on met du liant dans la relation, sont extrêmement importantes dans la vie quotidienne, bien sûr.
Et juste une dernière question, je suis désolée parce qu'il y a encore des auditeurs et des auditrices qui attendent en ligne, mais on n'aurait pas le temps de les prendre. Il y avait entre autres Marcel qui nous appelait et qui voulait intervenir, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Comment un thérapeute familial peut aider? Quel est votre rôle, justement, quand vous recevez des couples? Ça se passe comment, je dirais? Voilà, il y a un couple qui s'installe dans votre cabinet, ou on commence par quoi? Vous dites quoi? Ou eux disent quoi?
Je commence par qui se présentent eux-mêmes et qui présentent leur situation. Et j'essaye de voir quel est leur objectif commun dans ce travail. Ensuite, ma position ne sera pas la position de neutralité classique du psychothérapeute individuel, mais je vais essayer de faire en sorte qu'ils s'entendent et se comprennent un peu mieux par rapport à ce qui se passe à la maison. C'est-à-dire que quand je parle à l'un, je vais prendre le parti de l'autre, et quand je parle à l'autre, je prendrai le parti de l'un. Et ainsi, j'essaye, ça c'est avec de développer l'empathie, de faire en sorte qu'ils comprennent un petit peu mieux le désarroi et éventuellement même la souffrance de leur partenaire, et qu'ils ne restent pas dans l'idée que c'est à toi de changer. Non, c'est à toi de changer, parce que sinon on bute sur un bras
de fer. Et ils viennent
vous voir
combien de temps, combien de fois, tous ces couples? Ça dépend, vous allez me dire.
J'ai une jolie formule que j'aime bien, et c'est ma femme qui l'a trouvée, qui est pas plus longtemps que nécessaire.
Mais juste qu'il
donc,
faut.
En général, ce ne sont pas des thérapies longues, mais comme je reçois les gens une fois toutes les 3 semaines, il suffit d'avoir 8 ou 9 séances, ça fait une année scolaire déjà.
C'est ça, et ça fait avancer les choses. Merci beaucoup Bernard Gébérovitch. Je rappelle que vous venez de publier Les 7 vertus du couple, une alchimie particulière, c'est aux éditions Odile Jacob, et vous êtes venu avec 4 livres pour les auditeurs, et pour participer au tirage au sort, rendez-vous sur Facebook, sur la page de l'émission, pour vous inscrire. Merci beaucoup. Et pour terminer, on a Stéphane Besançon en ligne. Bonjour Stéphane.
Bonjour Claire.
Stéphane Besançon, vous êtes directeur de santé et diabète au Mali. Vous intervenez toutes les semaines avec une chronique nutrition pour nous donner des bons conseils. Vous nous avez parlé ces dernières semaines des repas équilibrés, du petit déjeuner, des 2 repas déjeuner dîner. La semaine dernière, des cubes alimentaires. Et cette semaine, vous vous intéressez à l'activité physique qui est absolument essentielle pour notre santé.
Oui, c'est quelque chose qu'il faut comprendre absolument, que l'un ne va pas sans l'autre. Que si les auditeurs souhaitent agir sur leur alimentation afin de perdre du poids, ils doivent absolument agir aussi sur leur niveau d'activité physique. Car en effet, afin d'améliorer son état nutritionnel et la gestion de son poids, il faut faire attention d'un côté aux apports alimentaires, ce qui va représenter les entrées, tout en améliorant de l'autre côté les dépenses énergétiques qui représentent les sorties. Il faut donc que les auditeurs, s'ils veulent perdre du poids, arrivent à un équilibre entre les apports et les dépenses.
Et Stéphane, pratiquer une activité physique, est-ce que ça veut dire obligatoirement faire du sport ?
Non, pas du tout. Et ça, je pense que pour nos auditeurs, c'est une question centrale dans beaucoup de pays où les gens écoutent l'émission. Ils pensent souvent qu'il y a un lien direct entre sport et activité physique. Or, l'activité physique, ça englobe tous les mouvements que notre corps effectue quotidiennement, y compris durant les temps de travail et de loisirs, et pas uniquement durant de l'activité sportive. Concrètement, ça signifie que marcher, faire ses courses, faire son ménage et beaucoup d'autres actes du quotidien correspondent à la pratique d'une activité physique. À l'opposé, on parle de sédentarité, un terme qui revient beaucoup aujourd'hui lorsque les mouvements du corps sont réduits au minimum, comme par exemple quand on est assis devant la télévision, quand on est assis au bureau, ou qu'on se déplace en moto, en bus ou en voiture.
On n'est pas obligé donc de se lancer dans le marathon, mais quels sont les bénéfices qu'on peut attendre de la pratique d'une activité physique ?
Alors, il y a un bénéfice direct sur la santé en diminuant les risques de développer les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle et certaines formes de cancer. Il y a aussi un bénéfice un peu plus indirect en améliorant la condition physique, en augmentant le souffle, la force musculaire, la souplesse et l'équilibre, mais aussi en étant plus résistant à la fatigue, au stress et en améliorant le sommeil. Elle permet aussi, et enfin c'est ce qu'on a dit depuis le début, d'améliorer l'équilibre énergétique entre les dépenses et les entrées, ce qui veut dire améliorer le poids.
Et quels sont les objectifs qu'il faut se fixer, Stéphane ?
Alors, l'Organisation mondiale de la santé recommande deux choses. Soit une pratique de 30 minutes d'activité modérée par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 30 minutes de marche à pied, soit 75 minutes par semaine d'activité d'intensité soutenue. Alors, l'activité soutenue, ça correspond là à de l'activité plus sportive, comme la course à pied, le vélo ou la natation. Et enfin, pour conclure, Claire, ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir que si on souffre de diabète, de certains types de maladies cardiovasculaires, il faut faire très attention à la pratique de l'activité physique et voir un médecin, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, qui prend des précautions spécifiques pour ce type d'activité physique.
Reprendre en douceur. Merci beaucoup Stéphane Besançon et comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Au revoir à tous et à demain, nous parlerons d'Ebola.